Bien, alors bonjour à tous, on est ravis de pouvoir discuter un petit peu avec Christophe Arleston aujourd'hui, donc au sujet notamment d'un de ses derniers albums en date, et donc revenir un petit peu à l'occasion de ses Utopiales 2016 sur ce qu'il a fait, et éventuellement bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors merci de bien vouloir répondre à quelques petites questions. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu? Alors, quand même, vous avez une longue carrière.
Un aperçu de ma carrière, de mon dernier album, de quoi?
De votre carrière dans un premier temps. Bon, très rapide, hein, je pense que la plupart de nos lecteurs vous connaissent déjà bien.
Je suis un scénariste de bande dessinée qui a commencé dans les années 90 et qui assez rapidement a eu une chance extraordinaire qui a été de rencontrer le succès auprès du très large public avec L'Enfeuse de Troie. Puis Troll de Troie, puis Les Forêts d'Opale, puis Les Naufragés d'Ithaque, donc, et récemment Écho, avec Alessandro Barbucci. Donc j'ai quand même cette chance d'avoir à chaque fois fait ce qu'on appelle des best-sellers, touché le grand public. Et là, avec Adrien Floch, le dessinateur des Naufragés d'Ithaque, on lance une nouvelle série qui s'appelle Sangre. Et Sangre, c'est une série en 8 albums, dont le scénario est déjà défini dans le détail. Et qui est pour la première fois une histoire de vengeance. J'ai jamais abordé ce thème en 170 bouquins. Et là, la vengeance va être vraiment le moteur d'une héroïne, d'une jeune fille à qui il arrive des choses terribles et qui va chercher à se venger.
C'est vrai qu'on était, notamment avec l'univers de Landfeust, on était habitué à des univers un peu légers, même s'il y avait toujours un peu une dimension un peu tragique à certains moments. Mais globalement, le ton général se voulait assez léger habituellement.
D'habitude, j'aime beaucoup mettre beaucoup d'humour dans l'heroic fantasy. Et là, je crois qu'en vieillissant, je deviens pas drôle du tout. Non, j'ai envie de continuer à faire beaucoup de choses avec de l'humour, mais j'ai envie de faire aussi des choses un peu différentes de temps en temps. Et là, le sujet en lui-même, une petite fille qui voit sa famille massacrée devant ses yeux. Ça se prêtait pas vraiment à un traitement humo. J'avais envie d'aller vers une histoire qui reste de l'aventure, mais qui reste portée par des moteurs plus viscéraux que ce que je raconte d'habitude. Ça n'empêche pas d'ailleurs des touches d'humour dans les albums à venir. Dans le premier, ça s'y prêtait pas parce que c'était vraiment l'enfance en elle-même. Après, on peut avoir un petit peu d'humour. Hein. Dans Kill Bill, il y a des moments très drôles alors que c'est une histoire de vengeance. Là, ça va pas. Disons que comme chaque histoire, elle va trouver sa voix et son ton assez naturellement. J'ai toujours des intentions quand je commence à écrire, mais ce qui sort à l'arrivée est souvent assez différent de mes intentions. Donc, je sais ce que j'ai écrit, mais je sais pas forcément comment va être ce que je vais écrire.
Parce que là, il y a déjà, on peut voir à la fin du premier album, sur la quatrième de couverture, on voit donc vous avez déjà prévu une histoire par.
Alors, le concept pour moi de cette série, c'est d'avoir donc 7 méchants à retrouver, plus leur complice qu'on a retrouvé dans le premier album et qui justement a donné des noms et des pistes à suivre. Et chaque méchant va être le sujet d'un album. Quand je dis chaque méchant, c'est non seulement le méchant, mais le monde sur lequel il habite, l'univers, la société dans laquelle il habite. Et je veux à chaque album avoir un univers. Alors ça, ils sont déjà déterminés, tout est écrit, tout est établi, je sais qui sont mes méchants, quelle est leur personnalité, dans quel monde et dans quelle société ils vivent. Et à chaque fois, Sangre va aller les retrouver et trouver un moyen d'accomplir ce qu'elle a à faire.
Et justement, donc, dans votre façon de procéder, donc, vous avez dit un petit peu plus tôt qu'il y a certaines fois où l'histoire vous échappe un peu, finalement, où les personnages vous entraînent dans des directions inattendues.
Oui, les histoires m'échappent parfois, mais là, je connais le cadre. J'entendais plus le ton de l'histoire. Peut varier, peut évoluer. Parce qu'on a beau essayer d'imposer des choses à ces personnages, en réalité ils sont vivants, ils vivent tout seuls et à un bon moment on est obligé de les suivre et de voir où ils vont. Par contre, sur la trame narrative, l'arc narratif est prédéfini. Comment ils vont se promener à l'intérieur,
c'est là où
ils ont une liberté.
Donc justement, cette notion de liberté aussi aussi importante finalement pour les personnages, à chaque fois vous décrivez comme des univers. Là pour le coup, on va être sur des planètes différentes, des environnements différents. Sans doute différent. Et dans Landfeust, par exemple, bon, je reviens un peu à Landfeust, c'était il y a un moment, et dans Écho également, il y a quand même une dimension de voyage assez. Enfin, qui est peut-être un peu systématique ou... Enfin,
J'aime le voyage, parce que le voyage, c'est l'aventure. Le voyage est moteur d'aventure en lui-même. Dans des albums comme dans L'Enfeust, généralement, il y a plusieurs lieux par album. Là, par contre, dans Sangre, on va vraiment avoir un album, un lieu.
Et donc, du coup, ça permet aussi de centrer peut-être un peu le récit et de vous concentrer davantage justement sur le motif de la vengeance. Donc, c'est le motif qui va être récurrent. Dans le personnage, et, enfin le premier album est quand même
c'est
assez
pas
sombre et blanc.
Le motif, on le connaît, puisque à la fois elle veut se venger de ceux qui ont tué une bonne partie de sa famille et en même temps retrouver sa mère qui a été emmenée en esclavage. Donc le motif, on le connaît. Tout l'intérêt dans chaque album, ça va être, c'est un peu comme dans un Columbo, on sait qui est le meurtrier. L'intérêt, c'est de savoir comment Columbo va le coincer. Là, c'est comment Sangre va obtenir vengeance. De quelle manière elle va obtenir vengeance en fonction de la société et de l'environnement dans lequel elle est méchante.
Et donc dans vos albums, on a aussi beaucoup de petites, on voit beaucoup de petites créatures un peu, je dirais un peu mascottes, qui sont assez emblématiques. Dans Echo, donc il y avait
les prêchaunes.
Dans L'Enfeust, on avait les trolls.
Oui, les trolls comme petites créatures mascottes.
Comme petites créatures.
C'est encombrant, mais...
En gros, mais enfin, disons que comme créature, on va dire un peu emblématique. Et est-ce que vous pensez, vous avez déjà pensé à quelques créatures du même style dans cette série?
Non, pas forcément, parce que ce type de sidekick est là en grande partie pour l'humour, souvent. Mm-hmm. Et dans Sangre, non, elle est juste seule avec son chien. Et justement, il ne faut pas qu'elle puisse avoir trop d'autres attachements, parce qu'on a un personnage très solitaire. Donc non, là, il n'y aura pas de petits écureuils rigolos dans le fond.
Non, disons que l'histoire ne s'y prête pas forcément non plus, ne s'y prête pas même du tout pour le coup.
Et j'ai besoin d'un personnage qui puisse vraiment voyager de monde en monde tout seul. C'est un problème que je rencontre parfois dans mes albums. J'ai tendance à faire des communautés de personnages, des groupes de personnages, ce qui est très sympa, ce qui me permet beaucoup d'occasions de comédie, puisque la comédie, elle fonctionne par interaction entre des psychologies différentes et des personnages différents. Là, j'ai un personnage solitaire et je pouvais pas trimballer un groupe de personnages d'album en album qui allait suivre, parce que j'ai parfois ce problème de me dire au bout d'un moment, zut, là j'en ai encore ajouté deux qui sont très sympas, mais finalement on commence à être un groupe de 8, et quand il s'agit d'avoir une scène d'action ou de déplacement ou autre, bah, faut louer un charter, ça devient compliqué quoi. Là c'est pas du tout le propos dans Sangre.
Et donc au niveau de l'écriture, donc vous avez écrit un roman assez récemment. Et est-ce que ça influence votre travail en BD? Est-ce que ça s'influence mutuellement? Est-ce que c'est un peu dans la continuité?
Alors, c'est dans la continuité, dans le ton du récit, parce que là, j'ai fait ce que je crois savoir faire et ce que les gens aiment bien dans mon travail, c'est de la fantasy avec beaucoup d'humour. Je suis allé un peu, pour une première expérience dans le roman, vers des domaines où... J'ai pas pris de risque sur le contexte, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout de travailler l'écriture. Donc autant aller vers des domaines qu'on connaît bien et pouvoir se concentrer sur la technique et l'écriture, parce que ça a été une grande récré et un moment formidable de vraiment sculpter les phrases. Moi, je suis journaliste de formation, donc je suis passé par une école de journalisme où j'ai été maltraité par des profs qui m'ont appris à écrire de force, et c'était très très bien, et j'en ai gardé quelques principes, la haine de l'adverbe, des phrases percutantes, dire la même chose en le moins de mots possible, se relire à la fin d'un papier, arriver à en enlever un tiers sans changer quoi que ce soit au sens, c'est-à-dire aller à l'os dans l'écriture. Et j'aime écrire, en fait, j'aime sculpter les phrases, et ça me manquait un petit peu. À travers la bande dessinée, je le fais dans les dialogues. Mes dialogues sont justement très percutants, et la bande dessinée est un bon exercice, parce que matériellement il faut tenir le moins de place possible sur l'image, occuper le moins de surface possible avec le texte, et pourtant il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, dans le roman, j'avais à la fois la liberté totale de ne plus avoir le filtre du destinateur qui va donner une nouvelle interprétation de ce qu'on a envie de raconter. Là, je suis en prise directe avec le lecteur. Il y a toujours des images, mais il n'y a plus un dessinateur pour les faire, c'est au lecteur de les fabriquer lui-même. Et donc, c'était vraiment pour moi un exercice extrêmement plaisant. Je me suis beaucoup, beaucoup amusé.
Et au niveau donc de comment ça s'est passé la collaboration avec le dessinateur sur Sangre du coup
Sur Sangre, ça s'est très bien passé parce qu'Adrien Floch et moi avons déjà travaillé pas mal ensemble. On a fait 14 albums d'Itac. Là, je lui avais demandé d'avoir un dessin un peu plus réaliste que d'habitude, de fouiller un peu son dessin dans d'autres directions. Lui, ça l'a obligé à une remise en cause qui l'a intéressé aussi, qui l'amuse. Parce que tous les créateurs, en fait, il y a toujours un moment où on aime être bousculé, on aime être obligé de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude et d'avoir l'occasion, le prétexte de le faire. Donc là, Adrien était ravi et lui, il était à fond dans cette histoire. Il y a eu quelques petits calages à faire dans le jeu des personnages. Le grand public s'en rend pas souvent compte, mais le plus important chez un dessinateur, le vrai talent d'un dessinateur, c'est pas de savoir si il dessine bien ou mal dans le terme académique, c'est ses capacités de mise en scène d'une image, de composition d'une image et la manière de faire jouer les personnages. Et parfois, on peut avoir un très très bon dessinateur qui va mal faire jouer les personnages, ou alors qui va pas les faire jouer comme il faut par rapport à ce récit-là. Et là, Adrien avait une petite tendance au début, parce qu'il a fait plusieurs versions des pages, à les faire surjouer. On avait vraiment des acteurs de théâtre qui en faisaient des caisses, dans le tragique. Et moi, je lui ai dit non, il faut qu'il joue calme, en dessous, ou qu'au contraire, ça soit très intériorisé chez la plupart des personnages, et chez Sangre en particulier. Elle doit vraiment être intérieure, on doit vraiment la sentir traumatisée. Et il l'a très très bien rendu finalement, mais voilà, c'est même avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps, des fois il faut des petites explications, des petits calages.
Très bien, et donc au niveau de vos projet à venir, quoi peut-on s'attendre, bon, la suite de Sangre peut-être.
Alors, pour le moment, j'ai pas beaucoup de nouveaux projets dans le sens où j'ai beaucoup de séries en cours et je peux pas me permettre de lancer des nouvelles séries sans cesse, parce que le problème d'une série, c'est qu'une fois qu'on l'a commencé, il faut la continuer. Donc le mois prochain sort un nouveau Troll, un nouvel Écho en version noir et blanc, la version couleur ne sera là qu'au printemps, un nouveau Lanfeust comme tous les ans, un nouvel Itac, Naufragé d'Itac. Donc j'ai déjà 4 bouquins qui sortent le mois prochain, parce que là c'est la période des fêtes et les éditeurs aiment bien sortir les bouquins pour les fêtes. Et puis par ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de continuer ? Je continue Léo Loden, ma vieille série de polar humoristique. On est au tome 24. Et là, en ce moment, d'ailleurs, pour changer un peu, ça fait 24 tomes qu'il y a ce détective privé qui est là, à Marseille, dans diverses villes de France. Et le prochain va s'appeler Léo Lodanou, mais ça va se passer à Massilia. Et sans donner aucune explication, au tome 24, brusquement, ça se passe dans la Gaule romaine. Et il est questeur privé et on retrouve tous les personnages habituels dans des postes. On peut se permettre de faire ce genre de truc quand on est à prévu plus de 20 albums d'une série, un peu comme des fois dans les séries télé, de temps en temps on a un épisode comédie musicale ou historique. Voilà, donc là on s'amuse. Et puis les forêts d'opale, alors Philippe Hellé, le dessinateur, s'est arrêté après le premier cycle et là il y a un nouveau dessinateur qui reprend. Donc tout ça, ça fait déjà de quoi pas mal occuper mes journées.
Effectivement, et celles des lecteurs également.
Voilà.
Au plaisir de vous lire en tout cas dans vos prochaines productions. Et puis, merci encore pour toutes ces réponses.
De rien.